Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Alors il y a un cas, Eric Hobsbawm, immense historien britannique traduit dans le monde entier mais politiquement contesté.
Oui, à la fin de sa longue vie, il est mort en 2012 à l'âge de 95 ans, Eric Hobsbawm était sans doute l'historien le plus célèbre de son temps. Ses livres avaient été traduits dans plus de 50 langues, ils avaient été vendus à plusieurs millions d'exemplaires, 1 million rien qu'au Brésil. Et pourtant, dans bien des milieux, Hobsbawm avait une réputation sulfureuse. Pourquoi ? Parce que ce professeur britannique, devenu riche et célèbre au terme de sa carrière, a été toute sa vie un communiste convaincu. Même les révolutions de 1989 en Europe centrale n'avaient pas ébranlé ses convictions. Je l'ai entendu moi-même en 1993 à LSI, devant des centaines d'étudiants enthousiastes, répéter qu'il n'avait aucun regret pour les purges. Hobsbawm passait pour un stalinien sans remords. Qu'en était-il ? Eh bien, un autre grand historien britannique, Richard Evans, s'est penché pour The Guardian sur le cas Eric Hobsbawm. Non seulement il connaît fort bien l'œuvre de son aîné, mais Evans a examiné en détail son autobiographie qui s'appelle Interesting Times, publiée en 2002. Il semble en outre avoir eu accès au dossier Hobsbawm, constitué et conservé par les services de contre-espionnage britannique, le fameux MI5. Il relève le rôle qu'a joué d'ailleurs ce service à certaines occasions pour bloquer certaines prestations de Hobsbawm à la BBC. En 1945, celui-ci avait posé sa candidature à la radio publique et elle était en bonne voie. Veto du MI5. Cet homme est un dangereux communiste. Nouvelle objection du service en question pour lui confier un documentaire sur la guerre du Vietnam dans les années 60.
Mais alors quel genre de communiste était Hobsbawm ?
Né à Vienne, de père anglais, Hobsbawm est emmené à Berlin par un oncle et une tante après le décès précoce de ses deux parents. À 14 ans, il manifeste avec le KPD contre les nazis. C'est le début d'une immersion dans le communisme qui durera toute sa vie en effet. En 1933, sa famille d'adoption, donc d'origine juive, fuit l'Allemagne nazie pour la Grande-Bretagne. Il adhère alors au Parti communiste de Grande-Bretagne. Mais après avoir connu les manifestations monstres du KPD, son énorme influence sur la classe ouvrière allemande, il juge le Parti communiste britannique comme une secte. La ligne est ouvriériste et les intellectuels dans son genre sont mal vus. Or, ce brillant étudiant de Cambridge, Eric Hobsbawm donc, est surtout un énorme dévoreur de littérature marxiste. Après la guerre, il fait partie du Communist Party Historians Group, un cénacle prestigieux puisqu'il compte des personnalités comme ses collègues E.P. Thompson, l'auteur de la fameuse « Formation de la classe ouvrière anglaise » et de Christopher Hill, qui est sans doute moins connu en France. Mais comme l'écrit Richard Evans, il ne fallait pas compter sur lui pour vendre la presse du parti dans les rues. Ce qui l'intéressait, Hobsbawm, c'était les discussions théoriques avec d'autres historiens marxistes. Après le discours mettant en cause les crimes de Staline prononcés par Khrouchtchev en 1956, le groupe des historiens communistes britanniques envoie aux dirigeants de leur parti un texte exigeant une reconnaissance des erreurs passées et un changement de ligne. Sans effet. La violente répression de la Hongrie par l'armée rouge provoque la rupture de beaucoup d'intellectuels britanniques, pas celle d'Hobsbawm. Malgré la sauvagerie de la répression qui fait 2500 morts, il juge que l'invasion était une tragique nécessité et il se contente de souhaiter que les troupes soviétiques se retirent aussitôt qu'elles ne seront plus nécessaires. Evans montre comment Hobsbawm s'est comporté envers le parti. Il a toujours ménagé ses critiques envers la direction de manière à éviter l'éviction ou la démission forcée. Cet orphelin avait terriblement besoin d'une famille. Le communisme lui en a procuré une. Il aurait eu des tendances euro-communistes dans les années 70 et dans les années 80, il aurait conclu d'une lecture de Gramsci que la classe ouvrière britannique ne pouvait espérer bâtir le socialisme sans passer des alliances avec des éléments de la classe moyenne, ce qui ferait de lui une des inspirations de la ligne adoptée alors au Parti travailliste par Neil Kinnock, admettons.
Et Brice, quel rôle a joué l'engagement communiste de Eric Hobsbawm sur son travail d'historien ?
Très faible en réalité, selon Richard Evans. Pour lui, si Hobsbawm a subi une influence intellectuelle déterminante, eh bien c'est celle de l'école française des Annales, bien davantage que celle du marxisme britannique. C'est particulièrement évident dans son livre qui s'appelle « L'âge des révolutions ». En tant qu'historien, il est libre et s'écarte de la vision communiste lorsqu'elle ne lui paraît pas convaincante. Ainsi, dans l'ère des empires, c'est encore plus flagrant. Ce qui a intéressé vraiment Hobsbawm et ce qui a fait de lui un précurseur, c'est l'attention qu'il a portée aux marginaux, aux déviants, aux bandits, aux révoltes en apparence irrationnelles, ce qu'il appelait les rebelles primitifs. Il y voyait des précurseurs des grandes révoltes ouvrières. C'était ces rebelles qui l'intéressaient en particulier, comme lui, des marginaux.
Merci beaucoup Brice Couturier. Votre chronique à réécouter et à retrouver comme d'habitude sur franceculture.fr.